Salut, c'est Fred Testo. Avec l'addictologue Laurent Carilla, on vous parle des dangers des paris sportifs. On écoute le témoignage de Chloé.
Il a commencé à avoir des soucis financiers. Comme j'avais fait un prêt étudiant, je lui ai prêté pas mal d'argent. Il ne peut plus du tout me rembourser. Il a changé auprès de tout le monde.
Professeur.
Tous les joueurs peuvent basculer dans le jeu problématique. On peut avoir des conséquences financières avec l'endettement, de l'isolement social. Et il y a surtout des conséquences collatérales. Hein. Les amis, la famille.
Parier, c'est pas rien.
Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
Hello et bienvenue sur le podcast Les Matchs de ma vie. À travers 5 matchs de foot, notre invité parle de son amour pour ce sport et nous ouvre ainsi sur quelques chapitres de sa vie. 5 matchs à raconter, beaucoup de bonheur à partager avec vous, où que vous soyez, où que vous nous écoutiez. Merci déjà de nous avoir choisis, c'est parti pour ce nouveau numéro de Les Matchs de ma vie avec moi, Darren Tulette, et notre invité aujourd'hui qui est...
Bruno Chéroux.
Oui, il y avait une petite hésitation. Mais tu as trouvé ton nom finalement. Ravi de t'avoir avec nous, Bruno. Ancien milieu de terrain offensif, on peut dire. Élégant comme les gauchers savent être. Presque 500 matchs en pro à travers 14 saisons. Ça commence à Lille et termine avec Nantes. Après des aventures à Marseille, à Bordeaux, à Rennes. Et chez moi en Angleterre avec les Reds de Liverpool, of course. 3 sélections aussi avec l'équipe de France. Bruno, lors de cette carrière de joueur que tu peux qualifier... Comment, avec quelques années de recul?
C'est difficile de trouver un adjectif, un mot, mais je crois que je peux être satisfait de la carrière que j'ai pu faire. On dit toujours, ouais, on ne doit pas avoir de regrets, mais on peut avoir des regrets. Je pense que ma carrière aurait pu être meilleure, mais elle aurait aussi pu être beaucoup moins bonne. Et au final, j'ai eu la carrière que je méritais, avec des hauts, des bas, comme un petit peu tous les joueurs de foot qui ont pu être professionnels un jour. Donc... elle est satisfaisante.
Satisfaisante pour Bruno Chéroux, cette carrière. Ouais, bah, moi, j'aurais eu une carrière comme ça, j'aurais été beaucoup plus enthousiaste que satisfaisante. mais en tout cas, des hauts et des bas, effectivement, et on va en parler avec cette liste des 5 matchs sans plus attendre. C'est parti pour les matchs de la vie de Bruno Chéroux. Match numéro 1, Bruno. Alors, qu'est-ce que tu as choisi et pourquoi?
J'ai choisi le jour de la finale et de la victoire en Coupe du Monde des Bleus le 12 juillet 98. Mm-hmm. Alors, je pense que c'est considéré comme le match de ma vie parce qu'on en parle ensemble, Darren, mais je pense que c'est un peu le match de toute ma génération et de toute la génération après 98 où ce match-là a radicalement changé la perception des joueurs de foot, du footballeur, de la place de la société, son importance et... Voilà, avant, je pense qu'on était un peu considérés comme des losers en France, que ce soit dans n'importe quel sport où on avait du mal à véritablement gagner alors qu'on avait du talent, alors qu'on avait des équipes et des joueurs parfois très fortes. Mais cette victoire en Coupe du Monde 98 nous a donné de la confiance, nous a donné de la fierté. Et après, bien entendu, les joueurs de foot, pour la plupart, sont devenus des pop stars, ceux qui ont gagné la Coupe du Monde. On pense à Zizou, à Manu Petit, à Lisa, à Fabien Barthez, etc. Il y a eu une vraie hype et les joueurs de foot n'étaient plus qu'un simple joueur de foot. C'était devenu des vraies personnalités importantes du paysage français, tout simplement. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce premier match-là, parce que je pense qu'il aurait eu une incidence quand même sur ma carrière, en sachant que j'étais juste aux portes du monde professionnel aussi en 98. Donc, ça me parlait. Je l'ai vécu un petit peu de l'intérieur, cette Coupe du Monde, puisque se passant en France, j'ai eu la chance d'assister à pas mal de matchs. Le quart de finale...
contre l'Italie.
Contre l'Italie, exceptionnel.
Ouais, au Stade de France.
J'étais tout seul. Je pense que c'est le seul match de ma vie que j'ai vu tout seul.
Ah oui.
Je me souviens, j'étais avec le journal L'Équipe, encore papier.
Oui.
Maintenant, on ne sait même plus que c'est un journal, L'Équipe. Et je l'avais dans les mains et je tapais. Et la séance de tir au but, c'était incroyable. Le bruit, notamment les sifflets quand les tireurs italiens devaient frapper leur tir au but, c'était absolument incroyable. J'ai eu la chance d'être aussi à France-Croatie pour la demi-finale avec le jour de Lilian Thuram.
Oui, 142 sélections, 2 buts, et mais les deux dans cette demi-finale.
Et un du pied gauche quand même.
Oui,
c'est extraordinaire. Ça n'existe pas dans la carrière de Lilian Thuram, qui a été exceptionnel malgré tout. Et la finale, je ne l'ai pas jouée, mais encore une fois, je pense, et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que ça reste l'un des matchs de ma vie, que ça a changé aussi une partie de ma vie à moi.
Né le 10 mai 1978 à Suresnes dans les Hauts-de-Seine, le jour de cette finale, tu as donc 20 ans. Tu la regardes où et avec qui alors?
J'étais à Juan-les-Pins en vacances. C'était oui, au mois de juillet, donc c'était encore les vacances. Je devais reprendre l'entraînement à Lille peu de temps après, je pense. Et je profitais de mes derniers instants, parce que je pense que ça devait être le dernier week-end de vacances que j'avais. Et c'est pour ça que je n'ai pas voulu venir au Stade de France. J'ai préféré en profiter dans le sud de la France. Donc j'étais à Juan-les-Pins avec mon frère, avec ma mère. Et après, on avait été un peu faire la fête dans un bar brésilien à Juan-les-Pins, le Pam Pam, pour ceux qui connaissent. Et c'était
le Pam Pam.
Ouais.
D'accord.
Et c'était voilà, c'était un souvenir exceptionnel. En fait, ce sentiment de fierté, de joie, de bonheur d'être champion du monde, c'était assez jouissif.
Ouais, jusqu'au bout de la nuit, à chanter on est champion, et 1, et 2, et 3-0, et Zizou président. J'étais au match en tant que jeune journaliste, presse écrite, et j'ai dû quitter le stade, je pense, dans le dernier bus pour aller sur Paris, mais tout était bloqué. On a dû descendre les journalistes à pied, les journalistes étrangers, hein, j'étais avec eux, et on a fini à pied sur le périph', pour essayer de rejoindre l'avenue de la Grande Armée pour monter un peu voir la foule, mais c'était la folie totale. Et au Pam Pam aussi.
Non, c'était la folie aussi au Pam Pam, mais c'était la folie dans toute la France. Je pense que il y a eu un élan de joie et de bonheur pendant tout cet été-là qui était absolument incroyable. Et encore une fois, le sport est capable de transcender et de rendre autant de gens heureux, et le football en particulier, parce que c'est le sport universel et c'est le sport le plus populaire qui existe. Et on a vu à quel point, grâce à cette victoire, le peuple français pouvait être uni et heureux.
Petit, alors, le sport, à quelle place à la maison? Je sais, tu viens de citer ton frère Benoît, le petit frère. Bon, on sait que tous les deux, vous êtes devenus professionnels, donc j'imagine que le sport à la maison, c'était déjà assez important. Quand tu es petit?
Oui, mon père et ma mère sont sportifs. Mmh. Ils aiment le sport. Il y a une vraie culture sport. Ma mère aime plutôt le tennis. Mon père, c'était plutôt le foot. Mais d'une manière générale, on a joué au volley. Mon père a fait du judo. Voilà, donc le sport, d'une manière générale, on le prenait comme quelque chose d'à part entière dans l'éducation. Et ils ont réussi à bien nous le transmettre, parce que c'est vrai que j'ai du mal à passer une journée sans faire du sport, même maintenant. Alors c'est vrai qu'avec les années qui passent, Darren, tu verras ce que c'est quand tu auras mon âge. C'est pas tous les jours simple.
J'espère avoir ton âge un jour de nouveau.
Mais c'est vrai que le sport fait partie intégrante de ma vie et j'en ai besoin. Après, c'est évident que quand on a eu la chance de pouvoir faire une carrière de sportif professionnel, je pense qu'on l'a ancré en nous et qu'on a un vrai besoin de se dépenser et de pouvoir faire du sport. Donc, le foot, ça a été le sport qui nous a permis, avec mon frère, d'être professionnels. Mais je pense que si ça n'avait pas été du foot, ça aurait été quelque chose d'autre.
Et les parents, ils faisaient quoi alors? Quand tu es petit, qu'est-ce qu'ils font, papa et maman?
Mon père, forcément, il nous emmenait au foot. Il y a mon grand-père aussi, qui avait un petit peu plus de temps et en étant à la retraite. Ils avaient occupé en plus des postes de dirigeant au Racing, le grand Racing Club de France à l'époque. On
habitait
à
Colombes. Vous avez joué quand vous étiez petit, oui.
Exactement, on habitait à Colombes, donc on habitait juste à côté de... Juste à côté du stade, et ça nous a permis de jouer au Racing à une époque où le club du Racing était considéré comme l'un des meilleurs en jeunes, avec de super éducateurs, avec le stade de Colombes qui a accueilli les Jeux Olympiques et la finale de la Coupe du Monde en 1936, je pense. Donc c'était quelque chose d'assez historique et on a eu cette chance-là de pouvoir grandir au Racing.
D'accord. Mais je parlais de profession. Papa, maman, ils travaillaient?
Ah oui, pardon.
Ouais.
Ils travaillaient. Ma mère, elle était instite en maternelle et mon père, il était plutôt dans l'informatique. Mais ils aimaient le foot tous les deux et ma mère l'a subi plus que mon père, forcément. Hein, c'est elle qui avait les affaires avec mon frère, etc.
Oui, parce que vous jouez tout le temps, donc il y a toujours des vêtements sales.
Et puis à l'époque, il n'y avait pas de terrain synthétique, c'était de l'herbe.
Ouais.
Et c'était plutôt de la boue que de l'herbe, souvent. Donc l'hiver, quand il pleuvait dans la région parisienne, ma mère, elle était contente de pouvoir faire les lessives avec toutes ces affaires-là.
À quel point, avec le petit frère, vous étiez compétitif? Est-ce que vous étiez toujours dans la même équipe ou est-ce que vous... Parce que je sais qu'il y a une espèce de... Vous n'êtes pas dans les mêmes équipes quand ça joue le week-end. Mais est-ce que la compétition était déjà présente entre vous? Comment vous viviez ça?
Elle était présente, mais après, tu sais, quand on grandissait, les 3 ans d'écart étaient importants.
Ouais.
Et forcément, j'étais le plus grand. Donc, mon frère a suivi ma trace. Il a suivi mon exemple, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai qu'on prenait du plaisir à jouer ensemble ou à jouer l'un contre l'autre, mais c'était difficile de se comparer pendant notre adolescence, parce que l'écart était trop important.
Oui, 3 ans, c'est beaucoup finalement.
Oui, 3 ans, t'as 30 cm de plus. Ouais. Donc déjà physiquement, il y avait une différence qui était énorme.
Ouais.
Après, on a eu la chance de jouer ensemble à Lille. Et ça, c'était assez exceptionnel. Et on a eu aussi la chance de jouer l'un contre l'autre, où je me souviens notamment d'un match où on était capitaine l'un et l'autre. Il était capitaine d'Auxerre et j'étais capitaine de Rennes.
Waouh.
Et c'était plutôt bien. Mon père était au stade et il a
quel
pu,
moment.
Ouais, ouais, il a pu voir ça. Et c'était,
ah ouais, ça c'est beau. Extraordinaire. Avant d'arriver à Lille, où vous avez effectivement joué ensemble, un petit mot sur juste avant, parce que tu pars jouer dans l'académie, c'est ça, à Lens. Comment ça se fait ça? Qu'est-ce que tu fais là-bas et pourquoi tu n'as pas percé avec le Racing Club de Lens?
En fait, à Lens, j'y joue de 95 à 98, si mes souvenirs sont bons. Où, en fait, quand je quitte le Racing, qui n'a plus le statut professionnel, je suis obligé de partir dans un centre de formation. Et il y a eu plusieurs clubs qui étaient intéressés. Il y avait Lille, Lens, Cannes, Monaco, Nice, Auxerre.
Donc là, c'est quand tu as quoi, 13, 14 ans?
Non, 15 ans.
15 ans, d'accord.
Et avec mon père, on a visité les différents centres de formation et il considérait que c'était à Lens où j'avais le plus de possibilités pour m'exprimer, où l'encadrement était le mieux, la scolarité, etc., etc. Donc c'est à Lens que je vais, où je fais 3 ans, mes 2 années d'aspirant et mon année de stagiaire. Mais c'est une année un petit peu compliquée pour le Racing Club de Lens où c'est Slavo Mousseline le coach, ils sont à bord de la relégation. Et finalement, c'est Daniel Leclerc et Roger Lemaire qui reprennent l'équipe pour sauver la fin de saison. Et donc, la priorité, c'était plutôt l'équipe
druide,
première.
Exactement.
Tout à fait. Ouais. Et je l'ai eu comme coach. J'ai eu cette chance-là. Maintenant, il est parti. Il n'est plus de ce monde. Mais c'est quelqu'un qui fait partie des coachs qui m'a vraiment marqué, au même titre que Vaïd ou que d'autres. Mais malheureusement, c'était la priorité, l'équipe première. Moi, j'étais encore en jeune, j'étais en réserve et en U19 à l'époque. Et donc, on a été un peu laissé de côté à ce moment-là. Et il fallait envoyer la lettre comme quoi il prolongeait le contrat ou pas avant le 30 avril. Et moi, je n'avais pas reçu de lettre, donc j'étais libre. Et voilà. Et au même moment, il y a mon frère qui, avec 3 ans de moins, est sollicité par Lille. Et mon père dit aux dirigeants de Lille que je suis libre, puisque Lens n'a pas voulu me garder. Et en plus, j'avais l'habitude de jouer contre Lille avec Lens, donc ils savaient quelles étaient mes qualités, mes défauts, etc. Quand ils ont su que j'étais libre, ils ont sauté sur l'occasion. J'ai fait une journée d'essai et j'ai signé à Lille.
D'accord, et donc tous les deux, vous êtes à Lille ensemble?
Oui, lui, il est au centre. Moi, je suis déjà en appartement à ce moment-là, parce que j'ai plus de 18 ans.
Ouais.
Et je joue avec l'équipe réserve. Jusqu'à ce que Vaïd reprenne l'équipe parce que ça n'allait pas très bien en Ligue 2. Et j'ai eu une opportunité à un moment donné, et voilà.
Bon, on va y arriver justement à ce premier match en premier. Juste avant ça, je me demande juste à quel moment, petit, tu comprends que tu as ce talent-là et que peut-être que tu vas devenir joueur professionnel. Est-ce qu'il y a un moment, est-ce que tu te souviens d'un moment déclic et où tu dis, oui, ça va être ma carrière en fait?
C'est difficile parce que, contrairement à nos enfants actuellement, eux, ils veulent être joueurs de foot. Nous, quand on était petits, on voulait être policier, médecin, avocat. Et c'est pour ça que je reviens sur France 98. Cette victoire a changé radicalement aussi la perception du football, que ça pouvait être quelque chose, un vecteur de réussite, d'ascension sociale. Et donc, il y a eu beaucoup de gens qui ont voulu vraiment faire du foot comme un métier. Moi, j'étais encore jeune, avant 98, et j'étais pas dans cette démarche-là. Sauf que après, bien entendu, je voyais que j'étais pas mauvais, que j'étais meilleur que certains. Mais c'est comme dans une carrière, quand on est jeune, il y a la croissance. J'ai eu 2 arrachements osseux à l'os iliaque parce que justement mes os grandissaient plus vite que mes muscles, etc. Et donc, j'ai été blessé pendant 4 mois à un moment donné, donc ça s'arrêtait. Et malgré toutes les qualités que je savais que je pouvais avoir, c'est jusqu'au moment où j'ai été contacté par les premiers clubs professionnels pour intégrer le centre de formation que je me suis dit « Ah, il y a peut-être quelque chose ». Mais même en intégrant un centre de formation, je ne me suis pas dit « Ça y est, je vais être joueur de foot professionnel ». C'est forcément quand j'ai signé mon premier contrat pro ou quand j'ai commencé à m'entraîner avec les pros que je me suis dit « Bon, on va essayer d'aller chercher le maximum de choses parce que c'est le plus beau métier du monde, on ne va pas se le cacher ».
Juste après journaliste sportif, oui, effectivement. Donc, ça nous amène justement au match numéro 2. Nous sommes le samedi 24 octobre 1998, donc toujours 98. 13e journée de Division 2. Nice joue contre Lille. Et donc ?
Premier match en professionnel avec l'équipe du LOSC qui est à l'époque en Ligue 2. Et c'est vrai que c'est la première marche où on se dit que on a cette opportunité-là, il ne faut pas la gâcher, il faut essayer d'aller chercher le maximum de choses, encore une fois, d'être le plus performant possible pour y rester. Mais c'est vraiment, je ne suis pas pro à l'époque, je suis stagiaire encore, où il y a cette règle où il faut faire 15 ou 20 matchs pro avant de signer son premier contrat pro.
Ah oui, alors que tu as 20 ans.
J'ai 20 ans. Après, j'avais poursuivi un peu mes études, donc ça a été un petit peu décalé, peut-être, mon apparition chez les professionnels. Mais je ne regrette pas du tout. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on a cette possibilité, déjà de s'entraîner avec les pros, on se dit on n'est pas loin. Et après, quand il y a son nom qui est coché pour être dans le groupe, on se dit on s'en rapproche de plus en plus. Et quand il y a le coach qui finit par nous dire « ça y est, tu vas être titulaire, c'est ton premier match », il faut être prêt parce que y a une responsabilité quand même de pas être le petit qui va gâcher un petit peu la fête et faire perdre son équipe. Il y a cette responsabilité-là collective et après individuellement d'essayer d'être le plus performant possible, bien entendu, pour rejouer le plus souvent possible.
Tu te souviens de quoi de ce premier match, de ces premiers pas?
Tu sais ce qui m'a le plus marqué? Tu vas rire, mais c'est quand on arrive au stade du Ray, c'est le stade du Ray à l'époque.
Oui.
Et Nice-Lille en Ligue 2, c'était un gros match. Nice, c'était un club historique avec des supporters, avec de la ferveur, avec de la passion. Et ce qui m'a marqué le plus, c'est l'arrivée au stade escortée par la police.
Ah oui.
Jamais je pensais pouvoir me faire escorter par la police un jour. Et là, j'étais dans le bus. Je vois l'escorte devant, l'escorte derrière, les motards qui nous permettent d'arriver plus vite, de griller les feux, etc., etc. Tu te dis, putain, je commence à être quelqu'un d'important quand même. Il y a quelqu'un qui vient m'escorter avec la police. Et c'est ce qui m'a le plus marqué. Parce qu'on est dans un autre monde. Exactement. Une autre dimension, un autre monde.
Oui.
Et un match important, donc je suis peut-être important, donc... C'est kiffant, c'est grisant, on va pas se mentir, de vivre ce genre de choses et de se sentir important et valorisé. Ouais. Donc on a envie de le revivre. Mais c'est ce qui m'a le plus marqué. Tu vois, du match en lui-même, je crois qu'on fait 0-0.
Oui, c'est ça.
Je jouais défenseur central.
T'as mis défenseur central.
Au départ, je jouais défenseur central. Après, Vaid, il m'a vite fait passer au milieu de terrain.
Ouais.
Mais je commence défenseur central. On jouait à 4 derrière, donc j'étais en charnière centrale avec Adik Kot, je crois. Mm-hmm. Et il y avait un attaquant à Nice qui était pas mal, c'était un Allemand qui s'appelait Kohn. Il l'avait recruté, il faisait partie des meilleurs attaquants de Ligue 2. Donc c'était déjà, tu vois, pour moi, 20 ans, qui débarque en Ligue 2 comme ça, un challenge.
Oui.
Mais je crois qu'en faisant 0-0...
T'avais un Kohn en face.
Oui, je connais ton humour et tu es fidèle à ton humour british.
Donc ça, c'est le premier match et à partir de ce moment-là, tu commences à jouer beaucoup plus souvent. Vaid Halilhodžić,
Oui, ne te pose pas trop de questions et prononce-le le plus rapidement possible.
Coach Vaid.
Voilà, exactement.
C'est comme ça. Alors, il était comment avec vous, avec toi en particulier?
Vaid, je parlais de Daniel Leclerc tout à l'heure. Vaid fait partie des personnes qui m'ont marqué. Il était très dur.
Oui.
Il était très exigeant, mais il était très juste. Et je pense que quand on est joueur de foot, ce qu'on a besoin comme coach, la qualité principale, c'est qu'il soit juste. On sait quand on mérite de jouer, on sait quand on mérite pas de jouer. Et Vaid était juste. Donc il était très dur avec moi. Il voyait que j'avais un peu de talent, un peu de potentiel. Donc il était encore plus exigeant avec moi. Et ça n'a pas toujours été facile avec lui, je le reconnais. Mais je pense qu'à ce moment de ma carrière, c'est-à-dire au tout début, d'avoir eu un coach qui croyait en moi, qui était exigeant et qui m'a poussé véritablement à donner le meilleur de moi-même, ça a été une bénédiction. Et si je n'avais pas croisé Vaid à ce moment-là, parce que dans la vie d'Arène, je crois beaucoup au timing et aux rencontres. Vaid, si je l'avais rencontré 10 ans après, ça n'aurait certainement pas été pareil. Parce qu'à 30 ans, je pense que je n'aurais jamais supporté son management.
Oui.
Mais à 20 ans, c'était certainement la personne qu'il me fallait pour pouvoir lancer ma carrière du mieux possible. Donc, je lui serais jamais assez reconnaissant d'avoir été comme il a été avec moi. C'est-à-dire dur, mais juste.
Après les premières saisons, réussi un an plus tard, champion et promu dans l'élite. Donc, tout va bien. Tu as le sourire. Le LOSC a réussi une saison exceptionnelle en terminant sur le podium, en plus, alors qu'il vient tout juste d'être promu en D1. Et tu commences de temps en temps à jouer avec ton frère, donc tout va bien. dans ces années lilloises.
Ouais, c'est une vraie belle période lilloise. Et tu vois, même quand on retourne à Lille, les gens nous reparlent de cette période.
Oui.
C'est un peu comme les Minots à Marseille. Là, nous, on sortait de nulle part. On était dans les fins fonds de la Ligue 2 avec des joueurs très peu connus à l'époque qui sortaient de nulle part, avec Vaïd qui arrive avec son accent yougo et son air militaire. Et on est passé effectivement de la 14e, 15e place en Ligue 2. Un an après, on jouait à Old Trafford contre David Beckham et Ruud van Nistelrooy. Donc, on a créé quelque chose au sein des supporters lillois à ce moment-là, une vraie affection. Et je te dis, 20 ans après, ils continuent de nous parler de cette période-là, alors que depuis, il y a eu des belles générations aussi au LOSC avec le titre de champion et des belles campagnes de Ligue des Champions. Mais cette période-là reste dans l'inconscient des supporters lillois comme une très belle période.
Là, vous avez marqué les esprits, effectivement, à cette époque-là. Et puis, oui, les matchs européens qui arrivent dans la foulée, ce match contre Manchester United. Tu marques un but en Ligue des Champions contre Manchester United.
Oui, et ça a peut-être été un match aussi particulier, c'est évident. Il a certainement marqué Gérard Houllier à l'époque, qui, quand on était bon contre Manchester United, ça éveillait son appétit, lui, le coach de Liverpool de l'époque, quand on connaît la rivalité entre les deux clubs. Mais oui, cette campagne de Ligue des Champions avec Vaïd, où... avec l'accord Rung, l'Olympiakos et Manchester United, à l'époque, c'était vraiment un groupe très, très costaud. On avait réussi à finir troisième, j'avais marqué trois buts, j'avais fait des bons matchs et ça m'avait permis de franchir encore une étape.
Mmh. Quand tu te frottes pour la première fois aux grands européens et que ça marche pour toi et que tu marques des buts et l'équipe joue bien, tu le sens, tu le sais et tu dois te dire quelque part je suis au top là, non ?
Oui,
je ne sais pas comment tu réagis quand tu vis ces moments-là.
Tu as une sorte de confiance qui t'habite et tu recherches sans arrêt à être de plus en plus performant et de repousser tes limites. Et là, il se trouve qu'encore une fois, en un an et demi, avec Lille, j'ai réussi à franchir les étapes comme il le fallait. Quoi. C'est-à-dire de la Ligue 2, parce que je n'étais peut-être pas prêt à ce moment-là de commencer en Ligue 1, dans un niveau inférieur pour faire mes armes, pour m'habituer un petit peu au niveau professionnel, au niveau adulte. Et puis petit à petit, la Ligue 1... la Ligue des Champions, voilà, ça m'a permis de franchir les étapes les unes après les autres et de me sentir beaucoup plus costaud et prêt pour justement aller poursuivre cette carrière le plus loin possible.
Lors de la saison 2001-2002, 11 buts en championnat en 27 matchs, le club termine 5e, Lille, et hop, direction l'Angleterre, direction chez moi, direction la Premier League, ce qui nous amène justement au match numéro 3, Bruno, le 30 juillet 2002, tu as choisi ce match au stade mythique d'Anfield où tu vas jouer pour les Reds pour la première fois, ce maillot rouge sur le dos suite à ton transfert donc de Lille, et un match amical de préparation en quelque sorte de la saison contre la Lazio. Pourquoi tu choisis ce match-là ?
Bah, c'est vrai qu'avec le maillot de Liverpool, j'aurais pu en choisir d'autres. Mais celui-là, c'est le premier presque officiel. C'est une semaine avant le début du championnat, ou avant le début du Charity Shield à l'époque. C'était contre Arsenal en 2002. Et c'était l'occasion de présenter les nouvelles recrues et la nouvelle équipe à Anfield. Et Anfield, c'est spécial. C'est pas à toi, Darren, que je vais expliquer ce que représente Anfield pour les Anglais. Même quand on n'est pas forcément supporter de Liverpool, on sait que dans ce stade, il s'est passé énormément de choses. Il y a forcément le You'll Never Walk Alone, il y a ces tribunes qui sont très proches, il y a le sigle This is Anfield, il y a tellement de choses qui ont pu germer dans ma tête depuis que j'ai signé là-bas que la première fois que je joue réellement dans ce stade plein, ça m'a marqué forcément. C'était contre la Lazio, c'était une belle équipe avec les Crespo, Claudio Lopez, Nesta, Couto, etc. Donc c'était un beau... C'était Mancini, je crois, le coach à l'époque. Donc c'était une belle préparation du début du championnat. Et je n'avais pas été mauvais du tout, en plus. C'est la première fois qu'il y a eu les fameux Bruno...
Oui, Bruno. Mais tu es très modeste, tu n'as pas été mauvais. Effectivement, on peut retrouver des images encore aujourd'hui sur YouTube, par exemple. Et effectivement, tu as été excellent lors de ce match. Et le COP commence à scander Bruno, alors qu'ils sont en train de te découvrir, en fait. Et ils te voient que tu es un jeune joueur en pleine confiance. Ça a dû faire du bien quand même. Et Gérard Houllier, qui t'avait fait venir aussi, j'imagine qu'il a dû être ravi de ces débuts-là.
Oui. Non, il était très content. Mais après, malheureusement, bon, la suite a été un petit peu plus difficile, mais forcément, quand on joue dans un club comme celui-là, la concurrence est très importante. Il y avait eu plusieurs facteurs qui m'ont pas permis d'être tout de suite forcément au top. Bon, il y a la présentation quand il dit que je suis le nouveau Zidane, où ça, il m'a fait plus de mal que de bien. Parce que c'était pas la peine de dire ce genre de choses.
Oui, c'était pas vraiment un cadeau avec
non,
le recul.
Mais ça m'a servi d'expérience aussi après dans ma carrière de dirigeant, de ne pas trop en faire quand on faisait signer un nouveau joueur. Au contraire, parce que dans l'inconscient des gens, même si on a envie de faire un coup de com' et un coup de pub sur le fait qu'on fait signer un top joueur, ça met une pression et ça met une perspective de la part des fans et des supporters qui n'est pas la bonne. Donc bon, bref, ça, avec Gérard, on en avait reparlé... plus tard, mais c'était difficile de pouvoir assumer la comparaison, puisque j'étais pas du tout le nouveau Zidane. Et après, dans sa gestion au quotidien, il a voulu prendre exemple sur Arsène Wenger avec Robert Pires, où il m'a dit au départ, regarde comment ça se passe, mets-toi sur le banc, essaye de t'habituer, etc. etc. Alors que j'étais sur une super saison avec Lille, avec l'équipe de France, on en parlera après, qui arrive. Donc j'étais vraiment sur un petit nuage. Tu parlais d'un sentiment... C'était un peu un sentiment de plénitude et de confiance tel que j'étais capable d'être titulaire à ce moment-là.
Bah, on le voit avec les images contre Lazio, effectivement, là, t'es prêt et tu es très bien dans tes pompes. Et le stade et la foule, le COP, tous les supporters de Liverpool voient. Tiens, on a un bon là. Mais oui, finalement, ils décident de ne pas te faire jouer tout de suite. Et...
Non.
C'est pas évident d'avoir le rythme à ce moment-là.
C'est très difficile d'avoir le rythme parce qu'avec Liverpool, comme il y a la Champions League, il y a énormément de matchs, on joue tous les trois jours. Mais quand vous asseyez sur le banc et que vous jouez trois jours après, à l'entraînement, vous ne pouvez pas pousser pour essayer de récupérer le rythme que vous n'avez pas eu en jouant. Et après, peut-être que vous allez jouer, mais si vous ne jouez pas, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et quand vous rejouez un mois ou un mois et demi après parce qu'il y a eu un blessé ou parce que le coach veut faire tourner, vous manquez de rythme. Donc pendant les 10, 15, 20 premières minutes, on a l'impression d'avaler la trompette parce qu'on est complètement à la rue physiquement. Après, ça va un petit peu mieux. Mais moi, j'étais un diesel, j'étais une grosse carcasse. J'avais besoin d'enchaîner. J'étais plutôt bon quand on arrivait à jouer tous les trois jours et moins bon quand il fallait jouer une fois tous les trois mois. Mais encore une fois, ça, je peux comprendre Gérard Rouillet. Il y avait énormément d'internationaux dans cette équipe. On était... un bon groupe et c'était difficile de se faire sa place. Donc certainement que j'aurais dû être meilleur à un moment donné pour pouvoir jouer un petit peu plus. J'ai eu une grave blessure aussi avec une hernie discale au début de la deuxième année qui m'a empêché de véritablement performer. Mais globalement, j'aurais quand même fait deux belles saisons avec Liverpool avec des souvenirs géniaux. Et puis notamment ce premier match à Anfield. Rien que le fait d'avoir joué un match à Anfield, c'est quelque chose de spécial.
Qu'est-ce que tu retiens au niveau joueur aussi de cette époque-là? Parce que tu as croisé certains superstars du foot anglais comme Steven Gerrard, d'autres qui ont fait un moment à Liverpool, je pense à El Hadji Diouf qui a dû arriver à peu près en même temps, qui a eu une carrière de haut et de bas aussi. Qu'est-ce que tu retiens parmi tous ces coéquipiers cette époque-là?
Steven Gerrard est effectivement l'un des deux, trois meilleurs joueurs avec lesquels j'ai joué. Il avait une énergie qui était absolument incroyable. Il avait une mentalité, leadership, un esprit de compétition qui était exceptionnel et qu'il arrivait à transmettre. C'est pour ça que ça a été un capitaine exceptionnel. Je pense que ma deuxième année à Liverpool, c'est l'année où Gérard Rouillet lui donne le brassard pour la première fois. Il change Sami Hyypiä pour Steven Gerrard. Et après, il n'a pas dû le quitter pendant 10 ou 15 ans. Et c'est devenu une légende avec les résultats qu'on connaît, notamment en Champions League. Donc c'est l'un des joueurs qui m'a le plus marqué durant ma carrière, c'est évident. Il avait aussi un pied droit assez exceptionnel. On parle toujours du pied droit de David Beckham, notamment pour les centres, pour les coups francs, etc. Mais celui de Steven Gerrard, avec cette espèce d'enroulé fort, j'ai rarement vu une qualité de passe et une qualité de centre comme Steven Gerrard. Donc voilà, il fait partie des joueurs exceptionnels avec qui j'ai eu la chance de jouer. Et là, bien entendu, et là, je le revois de temps en temps quand je vais au Sénégal. Ça a été un personnage, ça a été... une vraie personnalité comme il en existe dans le football, avec une espèce d'assurance, d'arrogance, mal placée parfois, maladroite, mais une personnalité aussi hyper attachante, et ça a été un super joueur de foot. Donc je suis ravi d'avoir pu croiser sa route aussi à un moment donné.
De belles années à Liverpool. Vous écoutez les amis Les Matchs de ma vie, le podcast de Beansport où notre invité raconte les 5 matchs de foot qui ont le plus marqué sa vie. On arrive au match numéro 4 de Bruno Cherou, le beau gosse de Liverpool devenu consultant télé et puis dirigeant du côté de Lyon jusqu'à récemment. Quelles sont tes envies professionnelles aujourd'hui avant de continuer avec cette liste, Bruno?
Disons que j'aurais envie à un moment donné de reprendre des responsabilités dans un club, d'être dirigeant et directeur sportif comme j'ai pu l'être dernièrement, que ce soit avec les filles du Paris Saint-Germain ou avec l'Olympique Lyonnais, parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime et que j'ai au fond de moi. Après, c'est un engagement total, un engagement important, avec une exposition qui est beaucoup plus importante qu'à une période et qu'il faut être capable d'assumer. Ça me fait pas forcément peur, mais il faut trouver le bon timing pour pouvoir assumer ses responsabilités et surtout trouver le bon projet. Et le bon projet, c'est les moyens, l'ambition d'un club, d'un projet et les personnes avec qui le partager. Donc certainement que je replongerai à un moment donné quand justement les planètes seront alignées, que je pourrai trouver les moyens et l'ambition que je voudrais avoir pour un club, pour un projet et les personnes avec qui le partager. Et sinon, à court terme... Voilà, travailler avec toi, Darren, pourquoi pas, à la télé. J'ai eu la chance de le faire avec Bein Sport pendant de nombreuses années et ça a été une transition géniale. Donc, à un moment donné, c'est vrai que la télé risque de faire partie de mes occupations.
Bah, c'est une très bonne idée et une très bonne nouvelle. Revenons sur les années où tu allais encore au boulot en short plutôt qu'en costard. On arrive au match numéro 4 de ta liste. C'est dans la foulée de ta belle saison avec Lille et ton transfert à Liverpool. C'est la première sélection avec l'équipe de France. On est au stade du 7 novembre à Rades en Tunisie, mais on le sait bien, le 21 août, ton premier match avec les Bleus. Quels en sont tes souvenirs ?
Bah là, c'est pareil, tu vois, c'est un peu la continuité de ce qu'on disait tout à l'heure, avec une belle saison à Lille, avec une arrivée à Liverpool. Et je me souviens, pendant la préparation, il y a Gérard Houllier qui vient me voir à un moment donné, il me dit « J'ai eu Jacques Santini au téléphone, je pense qu'il va te prendre pour la prochaine sélection. » Il me dit ça, tant que je ne vois pas mon nom sur la liste, à la télé, sur le papier avec l'en-tête de l'équipe de France, j'essaye de ne pas trop y prêter attention, mais une fois que ça devient réalité, bon, je dis... Là, on touche à quelque chose qui est quand même plutôt sympathique, parce que là, on est quand même en 2002. Y a des grands joueurs exceptionnels dans cette équipe de France avec Zizou, Thuram, De Sailly. Il y a encore quasiment la totalité de ceux qui ont été champions du monde en 98, alors, et qui ont gagné le championnat d'Europe en 2000, même si la Coupe du Monde vient de se passer en 2002, que ça n'a pas été une franche réussite. Il y a quand même un potentiel avec une équipe et des joueurs et des individualités où on sait que voilà, ça fait partie des meilleurs joueurs du monde. Donc de pouvoir côtoyer ces joueurs-là à ce moment-là, c'est comme atteindre le Graal dans n'importe quelle autre activité. Ça reste quelque chose d'assez exceptionnel. Et j'ai eu la chance, effectivement, pendant 2 ans, de partager... pas mal de temps avec les meilleurs joueurs de l'équipe de France et ça reste un privilège et une chance énorme.
C'était pas un moment facile d'arriver en équipe de France parce qu'effectivement, on parle de la génération en or qui a tout gagné. Trouver une place parmi ces joueurs-là qui avaient envie de rester pour la plupart, évidemment, parce qu'une fois qu'on y est, on y prend goût. Jacques Santini, c'était son premier match quand il fait appel à toi aussi. Lui, il était comment comme sélectionneur ?
Bah, c'était le meilleur sélectionneur puisque c'est lui qui m'a sélectionné. Non, mais je pense qu'effectivement, c'était pas évident de passer après 2002 et l'échec qu'a constitué cette Coupe du Monde en Corée et au Japon. Mais encore une fois, le potentiel était tel et il y a des explications à cet échec de 2002. Donc après, il faut reconstruire en s'appuyant sur les individualités énormes qui constituaient déjà cette équipe de France, mais en apportant un petit peu de nouveauté. Et c'est pour ça que je faisais partie de ces quelques nouvelles têtes qui ont pu, pendant quelques temps, bénéficier de ce passage.
Ouais.
Et bon, après, on connaît le succès que la France a pu avoir avec son équipe de France, pas en 2004, c'était l'Euro au Portugal, je crois, mais... Ouais. Après, il y a eu 2006.
Vous avez quand même battu l'Angleterre, voilà. Mais par miracle, en fin de match avec Zidane qui marque un doublé.
Tout à fait.
On ne va pas en parler. Mais qui était parmi cette génération-là évidemment, je suppose que Zidane doit être impressionnant quand on est à l'entraînement pour la première fois avec lui. Il y a Thierry Henry, Thuram, Desailly, Vieira, Petit, tous ces joueurs-là. Il y avait quelque chose de particulier, un joueur plus que l'un qu'un autre?
Tu sais, d'une manière générale, aux entraînements, c'était facile. C'est fou, mais c'était facile. Moi, je me souviens même de David Trezeguet, par exemple. David, c'était un buteur exceptionnel, mais c'était pas Thierry Henry, c'était pas Zizou. Mais à chaque fois que j'avais le ballon dans les pieds, son appel ou son décrochage, il était clair, il était net. Je savais où il fallait que je lui mette, quand il me la remettait, il me la remettait sur le pied gauche, il me la remettait pas sur la carotide ou sur la main droite, etc. Quand tu fais un dédoublement avec Lisa Razou, quand derrière toi, tu sais que tu as Lilian Thuram ou Marcel Desailly, tu sais qu'ils vont gagner le duel, et quand tu décroches et qu'ils te donnent le ballon, tu sais que c'est parce que tu es tranquille et que tu peux te retourner, etc. Donc voilà, ça reste pour moi une expérience énorme en se disant que plus tu montes de niveau, plus c'est facile en fait, parce que tu joues avec des joueurs qui ont un tel niveau, une telle qualité, que instinctivement ils font ce qu'il faut, ils se déplacent où il faut, ils se déplacent quand il faut. Et puis voilà, après il y avait Patrick Vieira, c'était monstrueux à l'époque. Willy Sagnol, qui était certainement aussi le meilleur latéral droit. Enfin voilà, ça reste une chance et un privilège d'avoir pu côtoyer cette équipe de France.
Et pas mal cette génération, effectivement. Allez, le dernier des 5 matchs qui ont le plus marqué ta vie, Bruno Chéroux, tu as choisi le clap de fin pour finir, effectivement. On est le 13 janvier 2012, donc on a bien sauté quelques années en avant maintenant. Au stade de la Beaujoire, tu es joueur du FC Nantes qui va affronter le SCO d'Angers. C'est ton dernier match. Tu le vis comment ?
Pas très bien. Pas très bien, mais enfin, les matchs de ma vie, c'est pas forcément pour dire que ceux où j'ai marqué 3 buts. Hein. D'ailleurs, j'en ai pas donné un où j'ai marqué un but.
J'allais dire, j'en avais pas où tu as marqué 3 buts. Attends, c'est plus là.
Non, mais c'est un peu pour boucler la boucle et pour un peu conclure cette carrière, justement, où en début de podcast, tu me demandais comment tu pouvais qualifier ta carrière. Je pense que là, je me rendais compte, je le savais, personne ne le savait quasiment. Il y a mon frère qui est venu, il y a André-Pierre Gignac qui était venu aussi de Marseille, ils étaient venus spécialement parce qu'ils savaient que c'était mon dernier match. Mais sinon, très peu de gens le savaient. C'était en cours de saison, parce que j'avais un deal avec le président Kita pour le rejoindre à la direction sportive justement et pour l'aider sur la fin de saison et pour préparer surtout la prochaine. Je pense que c'était le bon moment, j'étais arrivé un petit peu au bout, du bout. Physiquement, je vieillissais plus vite que les autres. J'avais l'impression que je me voyais moins bon. Et c'était forcément difficile à accepter. Et donc, il ne faut pas forcément tirer trop sur la corde. Mais je ne l'ai pas forcément très bien pris parce que on rêve toujours d'une fin en happy end. Mais voilà, c'était ma fin. Et c'était aussi l'occasion pour moi de passer à autre chose, en sachant qu'on a la chance de faire une carrière de joueur de foot, mais que ça dure 10 ou 14 ans, comme tu as pu le noter pour la mienne, mais qu'après la vie continue et que justement, c'était le moment où il fallait que je mette le football au service de ma vie et non pas l'inverse. Et c'était une transition peut-être toute trouvée pour justement bien réussir le reste de ma vie qui allait durer encore, je l'espère, le plus longtemps possible.
Pourquoi je n'avais pas annoncé que c'était ton dernier match alors ? Parce qu'en plus, tu joues à la maison, tu as été capitaine avec la FC Nantes. Si je l'avais dit avant, tu aurais eu probablement un joli hommage du public. Tu n'avais pas envie de ça ?
Non, je n'avais pas envie de ça. Je suis quelqu'un d'assez calme, tranquille et discret. J'aime pas trop avoir trop d'attention sur moi.
Tout le contraire de moi.
Mais...
Look at me.
Ouais, non, et puis c'était pas une fin choisie comme j'avais rêvé, tu vois.
Ouais, les conditions n'étaient pas réussies non plus.
Non, et puis j'arrêtais ma carrière, mais pour poursuivre en plein milieu de saison une autre fonction au sein du club. Bref, c'est comme ça qu'elle a été. Je le savais et je me souviens parce qu'après il y a eu un décrassage et j'ai quand même fait le décrassage et j'étais tout seul à la Beaujoire, tu vois, en train de faire le truc, et ça a été l'occasion pour moi pendant ces quelques tours de m'en rendre compte. J'ai eu du mal à l'accepter, j'ai eu du mal à le vivre, mais ça s'est passé comme ça.
Un moment dur quand même pour finir, ouais. Après ces belles années. Donc, on n'a pas eu le temps, parce que c'est forcément limité, hein, un match, une liste de 5 matchs. Tu n'as pas pu parler de l'OM, ni de Bordeaux, ni du Stade Rennais, avec qui tu as passé de belles saisons aussi. Une finale de Coupe de France aussi. Ça fait peut-être partie des regrets. Désolé d'en parler, parce qu'il y avait cette défaite contre Guingamp. Et le Stade Rennais, c'était quand même des belles années.
C'était de très belles années. Cette finale aurait pu être magnifique parce que...
Elle était magnifique déjà au niveau pour un neutre. Moi, j'étais là juste pour regarder les matchs. L'ambiance était extraordinaire parce que c'est deux clubs bretons face à face. C'était la fête dans les tribunes, mais c'est pas une finale à perdre. Il n'y a jamais une finale à perdre.
Non,
de toute façon.
Et puis Guingamp était en Ligue 2, on mène 1-0, donc c'est un match qu'on ne doit jamais perdre. Et puis il y avait d'autres enjeux, c'est que la famille Pinot avait investi depuis pas mal de temps, ils n'avaient jamais gagné de titre. C'était l'occasion de leur donner ce premier titre. Comme tu l'as dit, la fête, elle était incroyable. J'ai souvent été au Stade de France, mais j'ai rarement vécu une soirée comme celle-là au niveau de l'atmosphère et de l'ambiance où c'était effectivement la Bretagne au Stade de France. C'était bon enfant, on entendait les chants traditionnels bretons, etc. Et tout était vraiment réuni pour que ce soit une belle fête. Mais malheureusement, j'ai pas pu la mettre dans les matchs de ma vie parce que je l'ai perdue. Si je l'avais gagnée, je pense que je l'aurais mis, c'est évident. Mais voilà, ça reste... un match qui m'a marqué, mais pas de manière très positive, même si ça a été des moments exceptionnels en termes de sensations. C'était mieux de la gagner. En plus, c'est moi qui donne le premier but à Carlos Bocanegra. Je donne le coup franc, on mène 1-0. Enfin, tout était vraiment réuni pour que ce soit une belle fête. Malheureusement, ça ne l'a pas été. Mais c'était un peu à l'image de mon passage au Stade Rennais, où... au moment où j'arrive au Stade Rennais, ça reste un club moyen de Ligue 1 et où pendant les 4 années où j'y suis allé, j'ai vraiment la sensation qu'on a réussi à lui faire franchir les étapes et à l'installer dans le premier tiers du championnat de Ligue 1 comme étant un club vraiment bon, propre, stable, structuré et qui va jouer la Coupe d'Europe régulièrement. Donc c'était un bon club, stable et sain, pour pouvoir jouer au football. Et là, on voit actuellement qu'il fait partie des meilleurs clubs français. Et c'est normal et mérité par rapport à tout le travail et tout l'investissement, notamment de la famille Pinot depuis toutes ces années.
On a parlé de quelques entraîneurs qui t'ont marqué, quelques joueurs aussi. Il y a autre chose que tu as envie de partager avant de se quitter par rapport à cette carrière vécue ?
Non, écoute, je pense qu'on a été assez complet sur... on aurait pu encore parler 2 heures, mais tu m'as dit il faut que tu sois le plus court possible, donc j'essaye de rester dans les temps.
Je n'ai jamais dit ça.
Ça fait du bien de se replonger là-dedans. T'as l'impression que c'était hier. Quand tu regardes les dates, ça fait 20 ans. Le temps passe. Et même quand je revois des images, tu vois, tu as les images, j'ai l'impression que c'est en noir et blanc. Tu n'arrives même pas à te reconnaître tellement la qualité de définition de l'image, elle n'est pas forcément super bonne. Mais voilà, ça reste le plus beau métier du monde. Je n'ai pas énormément de regrets. J'en ai quelques-uns, bien entendu. Mais encore une fois, et pour peut-être conclure sur la première question que tu m'as donnée, je persiste et je signe avec tous les matchs que j'ai pu évoquer avec toi, où je considère que ma carrière est satisfaisante.
Tu restes là-dessus, bien plus que satisfaisante. Et ben, en tout cas, merci d'avoir partagé ces matchs, Bruno, ces souvenirs, ces moments de vie avec nous. Et on te souhaite plein d'autres matchs mémorables à venir, que ce soit sur un terrain de foot ou sur un terrain de padel.
Pourquoi pas ? Après, tu vois, il y a mon fils qui joue, que j'essaye de suivre, on ne sait jamais. Peut-être que j'arriverai à lui transmettre aussi cette passion pour le foot et j'espère qu'il brillera autant que moi. Après, le paddle, effectivement, est une passion qui me permet de continuer de faire du sport. On a beaucoup parlé de sport et de foot en particulier, mais c'est vrai que le paddle, c'est quelque chose... auquel je m'adonne avec beaucoup de passion actuellement.
La compétition, le sport, des victoires à partager et peut-être un autre Chérou qui arrive. Alors on lui souhaite beaucoup de courage et de réussite pour les mois et les années à venir. Merci encore Bruno
Merci
de nous avoir reçu. Si notre podcast vous plaît, les amis, n'hésitez pas à partager avec vos amis, à en parler sur vos réseaux sociaux. Spread the word, comme on dit en anglais. Prêchez la bonne parole, partagez la bonne nouvelle. Et si vous n'avez pas aimé, vous pouvez toujours envoyer un lien à vos ennemis. Nous lisons vos commentaires qui sont les bienvenus sur la plateforme où vous nous écoutez. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles pendant que vous y êtes. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Les Matchs de ma vie. Bye bye.